Monsieur le Président et cher Alain, après une telle introduction, je suis moi-même le premier impressionné. Je ne me savais pas tant de qualité et j'ai plaisir à saluer ici, bien entendu, les membres de l'Académie des sciences inscription Belles-Lettres, mais aussi mes collègues de l'Académie des Jeux Floraux, que je vois ici pour certains au premier rang. Alors, lorsqu'Olivier Mock m'a demandé cette conférence sur le thème que vous voyez, jeune docteur, qu'est-ce que la société attend de vous ? L'image que j'ai eue immédiatement au travers de notre haie commune, c'est celle de Pasteur. Celle de Pasteur parce que, évidemment, le jeune Pasteur, né en 1822, dans une région que mon épouse affectionne particulièrement, la Franche-Comté, il est originaire de Dole, lorsqu'il démarre à 30 ans, il est chimiste, il est physicien, il est normalien, et il démarre sur l'acide tartrique. Donc un sujet très précis. Et il va mettre en évidence qu'il n'y a pas un, mais deux acides tartriques, symétriques l'un par rapport à l'autre, et il introduit ce qu'on appelle un peu aujourd'hui la stéréochimie. À partir de cette base scientifique, la société va faire appel à lui pour toute une série de sujets important à l'époque, le premier d'entre eux étant la maladie du vin qui touche le vin d'Arbois, Château-Chalon, région dont il est originaire, et sur lequel il va faire des études partant de l'acide tartrique sur la fermentation et mettre en évidence que ça n'est pas une cause chimique mais une cause biologique qui est à l'origine de la maladie du vin. Et le voilà parti sur les levures. Et puis, à partir de cette étude sur les levures, grâce notamment aux avancées de la microscopie optique de l'époque et des colorants, le voilà parti ensuite sur les maladies infectieuses, lorsque Alès, le bassin d'Alès, fait appel à lui sur la maladie du ver à soie. Et vous avez au milieu de ma diapositive la statue Pasteur à Alès, parce qu'il a effectivement vaincu et sauvé. À l'époque, un bassin qui était un bassin charbonnier, mais qui est aussi le grand bassin d'élevage du Varsois. Et tout ceci, à la fin de sa vie, je vais rapidement passer sur les dernières années, la rage, etc., fait de Pasteur ce portrait que tout le monde connaît aujourd'hui et qui figure à droite de mon transparent, qui a été peint de multiples fois et qui fait de Pasteur, lorsqu'il décède fin du 19e siècle, cette grande personnalité scientifique reconnue auquel ou à laquelle la société doit tant. Donc voilà l'image, cher Olivier, qui s'est projetée dans mon esprit lorsque tu m'as posé la question, voilà, jeune docteur, qu'est-ce que la société attend de vous ? La société attend des pasteurs, mais pas que des pasteurs, parce qu'au fond, pasteur, c'est l'homme qui, effectivement, sur une base de physicien, de chimiste, va faire toutes ces découvertes utiles à la société, mais qui caractérise une certaine forme de recherche, qui est une recherche plutôt appliquée. Si Alain Cosse était parmi nous, il dirait qu'il y a aussi la recherche de type Einstein ou Max Planck, c'est-à-dire celle qui est orientée sur les découvertes fondamentales, par exemple sur la physique théorique, etc. C'est une forme de recherche, mais qui est une attente réelle aujourd'hui de notre société. Alors, quel est actuellement ce qu'on appelle un docteur ? Alors, je parle devant des magistrats ici qui ont présidé des cours d'appel, et par conséquent, j'ai eu plaisir à regarder un arrêt de la Cour de cassation, chers collègues, qui date de 2009, et au cours de cet arrêt, le débat oppose un docteur en médecine à un docteur en sciences. Et le docteur en médecine prétend que le docteur en sciences n'a pas le droit de porter son titre de docteur dans un débat public, médiatique, qui l'oppose sur un problème écologique à un docteur en médecine. Et la Cour d'appel rend un jugement en faveur du docteur en médecine, c'est-à-dire d'un doctorat vous voyez apparaître en tête en exercice en quelque sorte, hein, qui nécessite une petite thèse bibliographique qui dure quelques mois, mais on passe cette thèse qui dure au minimum 3 ans pour être docteur en sciences. Et la Cour de cassation va casser évidemment la décision de la Cour d'appel et rétablir le docteur en sciences dans ses droits, c'est-à-dire dans sa capacité à porter effectivement ce titre de docteur. Ce jugement est intéressant, pourquoi ? Parce qu'il marque une césure entre ce que nous connaissons en France, où les docteurs en sciences hésitent, parfois ne portent pas du tout leur titre de docteur, et ce qui existe par exemple en Allemagne, où le titre de doctor, avec un K, un O et un R, est porté effectivement par tous les cadres de l'industrie, et souvent par les plus prestigieux d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui président les grandes compagnies allemandes, ou le titre de PhD, docteur en philosophie, qui couvre enfin, au sens de la philosophie, c'est-à-dire j'aime la science en quelque sorte, hein, les docteurs de PhD en quelque sorte, c'est ces PhD qui sont portés par tous les docteurs américains effectivement qui ont ce titre prestigieux. Alors vous avez tous les titres de docteur ici, et il est important effectivement de bien avoir ça en tête. Je vais essentiellement vous parler des docteurs en sciences. Alors, quelle est la représentation que nous pouvons faire aujourd'hui d'un doctorat? Vous voyez cette double image, qui est celle qui représente pour moi, mais c'est pas la vérité infuse, ce qu'est aujourd'hui un doctorat. La première pour moi, c'est une galerie, c'est-à-dire aller au front des connaissances. On est souvent très isolé parce qu'on est dans une spécialité, peu de personnes savent de quoi exactement on parle, etc. Et donc pour moi, la galerie d'exploitation, aller au front d'abattage d'une mine de charbon et faire avancer le front des connaissances, c'est l'image qui caractérise le mieux, avec à côté, vous voyez, c'est relativement sombre, mais à côté, il y a quand même le directeur de recherche qui dit quand même et qui est capable effectivement de montrer au docteur en quelques mois sur son étude bibliographique où il faut aller, comment il faut aller pour maîtriser l'ensemble des connaissances nécessaires. Et puis vous avez cette fameuse méthode expérimentale mise en évidence au cours du 19e siècle, que Claude Bernard a largement développé, mais ça n'a pas été le seul, effectivement, où à partir d'observations, on échafaude une théorie qui permet de faire des prédictions, et par l'expérience, et même si possible par de multiples expériences, montrer effectivement que la théorie échafaudée est une théorie exacte, en quelque sorte. Voilà, en quelque sorte, les deux grands sujets sur lesquels les docteurs, dans les entreprises ensuite, vont être dans une situation de champion d'entreprise, en quelque sorte, c'est cette capacité à aller sur le front des connaissances, donc de disposer d'une culture scientifique relativement large pour pouvoir y arriver, et d'autre part, d'appliquer cette méthode expérimentale qui est toujours en application aujourd'hui dans nos laboratoires et dans nos entreprises. Alors, à partir de là, quels sont les résultats? C'est une culture évidemment scientifique, ça n'est pas pour notre société la seule chose qui vaille, il y a aussi ce qu'on appelle les compétences, c'est-à-dire ce que souvent l'école de la vie apprend, le savoir, le savoir-faire et le savoir-être. Et dans ce domaine, vous avez là un tableau qui est issu d'une étude du CEREC, réalisée en 2011 ou 2012, et qui est une auto-évaluation des jeunes docteurs de leur savoir et compétences. La question posée aux jeunes docteurs est la suivante, notez de 1 à 5, votre niveau de compétence ou de connaissance sur ces 7 paramètres que vous voyez apparaître et qui, pour le CEREC, sont considérés comme des compétences clés dans ce que la société attend d'un docteur. La première colonne met en évidence ce que les doctorants, pendant leurs études, évaluent ou auto-évaluent, et la seconde colonne, c'est après, effectivement, l'obtention d'une fonction, d'un emploi, de quelle manière ils évaluent, effectivement, l'évolution de leurs compétences. Et voyez que dans ce tableau-là, le niveau de connaissance scientifique a plutôt tendance à régresser, c'est ce qu'on appelle l'analphabétisation de retour, hein. On est formé, donc pas de silicium, une matière grise, et une matière grise, et la mémoire se détruit. La capacité d'innovation est plutôt stationnaire, et c'est un point essentiel dans une société basée sur la connaissance, je vais y revenir très largement, et tous les autres paramètres sont en progression. Notez quand même que sur certains paramètres comme la capacité de management ou la gestion de projet, on part quand même de très bas. Or, dans le monde des entreprises, ce sont quand même des compétences qui sont essentielles. Alors, il était bon pour moi de revenir au texte. Et le texte, évidemment, c'est d'une part le code de l'éducation, mais surtout en application du code, cet arrêté qui définit ce qu'est aujourd'hui les études, ce que sont aujourd'hui les études doctorales. Et vous voyez, dans les articles 1 et 2, j'ai mis en rouge ce qui me paraissait être les mots-clés, c'est-à-dire formation par la recherche, à la recherche, disent la majeure partie des professeurs d'université que je connais, mais l'arrêté dit aussi et à l'innovation, qui fait peser du reste la différence que l'on peut avoir en tête entre la recherche Einstein, dont je parlais tout à l'heure, et la recherche Pasteur. Et puis d'autre part, l'article 2 part largement d'insertion professionnelle. Et vous verrez que l'Université fédérale de Toulouse, sur ce plan-là, a fait des progrès considérables au cours des dernières années, de culture pluridisciplinaire, sujet qui aujourd'hui, au sein des universités toulousaines, françaises, européennes et internationales, est un sujet clé. Les grands défis scientifiques et sociétaux sont aujourd'hui des défis interdisciplinaires. Je prends l'exemple que je commence à connaître un petit peu du cancer. Aujourd'hui, les équipes de l'Oncopole à Toulouse, que ce soit au CRCT ou à l'ITAV, travaillent évidemment sur des très gros ordinateurs en calcul intensif. Vous savez, cet ordinateur qui à Toulouse fait 200 téra, c'est ça, Olivier. 200 teraflops, c'est-à-dire 200 000 milliards d'opérations par seconde. Et on a besoin de ces puissances de calcul aujourd'hui pour comprendre les phénomènes immunologiques qu'il peut y avoir effectivement et qui président à la diffusion du cancer. Visibilité internationale, évidemment, on ne fait pas de la recherche cantonale. Et puis enfin, la structuration des sites, cette structuration des sites dont je disais tout à l'heure qu'elle est au cœur d'un certain nombre de sujets actuellement. L'association Bernard Grégory a dit beaucoup de choses sur les docteurs et sur leur insertion. Bernard Grégory, alors j'ai mis sa photo, pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas souvent, mais ça a été mon professeur de physique à l'école polytechnique, hein, après avoir été dirigeant du CNRS. Il était professeur, il avait la chaire de physique de 1973 à 1976 à l'école polytechnique. Et qu'est-ce que dit cette association Bernard Grégory, au fond, on retrouve un peu les mêmes compétences, c'est-à-dire des savoirs scientifiques, des capacités à communiquer et à transmettre, évidemment, et la ténacité, la persévérance qui caractérise évidemment un jeune chercheur qui pendant 3 ans a travaillé sur eux, qui sont des qualités très importantes ensuite dans les applications économiques et sociales que vous allez voir. Quelques chiffres clés pour passer rapidement là-dessus. 62 000 doctorants en France. Alors, ce sont des chiffres 2011-2012 qui sont plutôt à la baisse actuellement. Hein. Si on devait dire quelle est la production actuelle de docteurs, vous avez 9 000 sur ce transparent qui vient de l'étude que j'ai consultée. On est plutôt aujourd'hui à 7 ou 8 000 docteurs par an actuellement, dont 1400 pour ce chiffre. C'est pour ce chiffre, sont relativement stables. Par rapport à cela, deux observations. Toulouse représente pratiquement 10% de la production des docteurs en France, ce qui est considérable. Deuxième observation, les 7 à 8 000 docteurs que nous produisons en France ne représentent que 50% de la production allemande de doctorants, qui est à 15 000 docteurs par an. Voilà, alors, comment s'insèrent les docteurs actuellement dans notre monde économique et social? Vous le voyez ici. Alors, j'ai regretté une chose sur ce tableau, mais je n'ai pas d'autres statistiques, c'est que lorsqu'on regarde à la sortie des écoles d'ingénieurs comment se placent les ingénieurs, l'enquête a lieu au moment de la diplomation 6 mois après. Donc très rapidement, on a une tendance, et si nécessaire, une boucle de retour pour pouvoir adapter les programmes de formation des écoles d'ingénieurs en fonction effectivement des difficultés de placement de nos ingénieurs. Là, on est sur un régime universitaire où l'enquête se fait 30 mois après, c'est-à-dire pratiquement 2 ans et demi après, et on a des statistiques 3 ans et 5 ans après. Donc ce sont des statistiques, mais bon, des fois je dis, on mange des mères, mais vous voyez que tout docteur confondu, après 3 ans, le taux de chômage des docteurs est de l'ordre de 10%, 6% après 5 ans. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est quand même le nombre très important de CDD. Ces CDD venant essentiellement de la fonction publique, puisque beaucoup de jeunes docteurs travaillent sur des postes d'ATER ou de postdoc, pas simplement en France, du reste, sur un plan international. Et voyez que leur salaire médian à 2020 euros par mois est inférieur au salaire des ingénieurs, ce qui présente pour beaucoup d'universitaires un paradoxe, c'est-à-dire que le grade universitaire français le plus élevé est moins rémunéré qu'une formation à bac plus 5 comme une formation d'ingénieur. Alors on va revenir effectivement sur ce paradoxe apparent pour pouvoir effectivement illustrer, vous avez des statistiques sur les bourses cibles qui se placent mieux à des niveaux de rémunération qui sont de l'ordre de grandeur du niveau de rémunération des ingénieurs, c'est-à-dire les bourses réalisées en entreprise. Là, vous avez une dernière statistique avant de répondre à la question qui m'a été posée, qui me paraît intéressante, c'est au fond, quels sont les débouchés? Vous voyez que les jeunes docteurs entrent essentiellement dans la recherche publique pour un peu plus de 50%, 52% exactement, un peu dans la recherche privée à hauteur de 25%. Donc, les jeunes docteurs font évidemment de la recherche après leur doctorat à 77%. On va faire une loi de Pareto. Et puis, 20% d'entre eux partent faire quelque chose de totalement différent. Probablement, ce taux un peu supérieur à 1%, qui est quand même significatif, est-il dû au fait que les débouchés pour les jeunes docteurs ne sont pas extrêmement importants en France, contrairement à ce qui se passe en Allemagne ou aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse ces dernières années face à ce constat? L'Université fédérale de Toulouse, dans le cadre du programme Unity, UDEX-Unity, a décidé de faire une école des docteurs. Donc les 15 écoles doctorales se sont regroupées pour faire une école des docteurs. Et dans cette école des docteurs, on s'est intéressé à deux choses importantes, me semble-t-il. D'une part, un observatoire qui permet effectivement de mesurer les débouchés des docteurs après leur doctorat. Et je vais dire en quoi c'est une avancée et en quoi on peut encore aller plus loin. Et d'autre part, des cours, soit sous forme de thématiques, et vous verrez quelles sont aujourd'hui les thématiques sur lesquelles les cours sont donnés, les cours d'accompagnement sont donnés aux docteurs, mais aussi un séminaire annuel qui est assez ancien, qu'on appelle des doctoriales, sous forme d'une semaine. Les dernières doctoriales se sont passées, je crois, résidentielles à l'école des mines d'Albi. Voilà le catalogue de l'école des docteurs à Toulouse, qui est un catalogue donc, de formation d'accompagnement. Vous voyez qu'il y a un certain croisement entre des compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, identifiées par le CEREC, sur lesquelles une évaluation avait été faite. On y trouve quand même un certain nombre de thèmes qui paraissent importants, comme l'entrepreneuriat ou l'international. Et je reviendrai aussi sur ces sujets-là. Un observatoire du doctorat de l'Université de Toulouse, c'est un travail exemplaire. Hein, lorsque vous parcourez le document qui est réalisé chaque année, vous avez un document qui fait une cinquantaine de pages et qui examine l'ensemble des débouchés des docteurs. Néanmoins, c'est une photographie. Et je pense que cette photographie, et c'est la première proposition que je voulais faire devant vous, devrait aller plus loin, notamment en appliquant ce que vous voyez sous forme d'un schéma que dans l'entreprise on appelle le PDCA, Plan, Do, Check et Act. Ça veut dire que lorsqu'on a affaire à une situation dans laquelle on a des difficultés identifiées, on fait une analyse de ces difficultés par les causes, quelles sont les causes de ces difficultés, on en fait ce qu'on appelle des Pareto, c'est-à-dire on essaie d'identifier quelles sont les causes qui représentent 80% des difficultés, et on traite les têtes de Pareto de façon à ce que, effectivement, à l'issue d'un cycle où on a fait un plan d'action, on a mis en œuvre ce plan d'action, et puis on a contrôlé ensuite, c'est le check, et bien effectivement, on arrive à un meilleur placement, etc. Quelque sorte. Cette analyse réalisée par l'Observatoire de l'École des docteurs à Toulouse manque effectivement, me semble-t-il, d'une analyse des causes et difficultés de placement des chercheurs de façon à pouvoir aller plus loin, améliorer par exemple par une formation, ou faire à l'instar de ce qui se passe en Allemagne, c'est-à-dire des doctorants qui partent faire des cycles deux fois six mois, systématiquement, pratiquement, dans les entreprises allemandes. Alors, qu'est-ce que la société attend des docteurs? J'ai mis deux photos. La première de gauche, tout le monde la reconnaîtra, c'est Hubble, l'astrophysique, la capacité effectivement que nous avons eue pour la recherche scientifique de faire un télescope spatial dans les années 90 qui va aller scruter les 13 milliards d'années de notre univers et qui est un concentré de technologie, mais en même temps un formidable débouché pour pouvoir effectivement réaliser des publications scientifiques en astrophysique. Donc c'est à la croisée entre la science et c'est la nouvelle lunette de Galilée, en quelque sorte, le nouveau microscope achromatique de Pasteur. Et puis vous avez à droite un véhicule qu'on appelle aujourd'hui le véhicule électrique et autonome, c'est-à-dire un véhicule qui demain roulera sans conducteur et nécessitera effectivement que l'on revoie la Convention de Vienne qui précise que toute voiture, article 5 de la Convention de Vienne, a un conducteur. Et que tout conducteur est autorisé à conduire un véhicule, c'est-à-dire à un permis de conduire. Et donc ce nouveau véhicule totalement autonome, électrique, non polluant, est effectivement un sujet de recherche technologique important pour nos futurs jeunes docteurs. Vous voyez deux images de la science et de la science appliquée. Alors, ça nous fait rentrer à ce moment de ma conférence sur un sujet qui est « Nous changeons d'économie ». Nous entrons dans une économie basée sur la connaissance, dans une nouvelle économie, dans l'ubérisation. Qu'est-ce que tout ceci veut dire exactement lorsque, comme observateur, on est dans l'entreprise et on voit effectivement émerger cette nouvelle économie? Cette nouvelle économie, elle héberge d'abord, en France comme dans tous les pays occidentaux, sur la base du diagramme que vous avez derrière vous, c'est-à-dire d'un diagramme de la différence des coûts salariaux qui existent aujourd'hui en Europe entre la Suède. Alors, ce sont des statistiques qui viennent de Bruxelles, de l'institut qui s'appelle Eurostat, qui est l'INSEE européen, et qui montre que les taux horaires sont à 44 euros de l'heure en Suède, on est à 36 en France, 35 en Allemagne, 27 en Italie, 21 en Espagne, 12 au Portugal et 6 en Roumanie ou en Bulgarie. C'est-à-dire, simplement sur l'Union européenne, vous avez un éventail de coûts salariaux qui fait que lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise française face à un appel d'offres lancé par Volkswagen ou par Airbus et que vous avez des compétiteurs situés en Roumanie ou en Bulgarie, vous êtes face à cette énorme difficulté qui est de dire comment je gagne cet appel. Et dans un monde où, tout de même, le marché américain reste quand même largement protégé par l'American Act, le Buy American Act, par la loi de Roosevelt, qui dit que les marchés publics américains sont réservés à des entreprises américaines, et lorsque vous allez au Japon et en Chine, c'est à peu près la même chose. Cet éventail de salaires oblige les entreprises occidentales, notamment les entreprises européennes, à innover. C'est-à-dire que si vous n'innovez pas, vous n'êtes pas capable effectivement de vous battre contre une entreprise portugaise ou contre une entreprise espagnole, et les Espagnols et les Portugais sont aussi intelligents. Alors comment est-ce qu'on se bat dans une entreprise, dans une économie basée sur la connaissance? On se bat en utilisant ce qu'on appelle une pyramide, qui est la pyramide de la valeur, qui est assez peu connue, mais que je vous présente, et sur lequel j'ai eu l'occasion un peu partout au sein de mon groupe industriel de discuter avec mes cadres. Si votre entreprise ne sort pas une production de qualité, personne ne vous consulte. Absolument personne. Prenez par exemple, je parlais tout à l'heure de la Suède, mon groupe travaille avec Volvo Trucks, donc une filiale s'appelle Renault Trucks en France, MAC aux États-Unis, etc. Avant même de vous consulter, Volvo Trucks vient faire un audit de votre entreprise en termes de qualité. Si vous ne passez pas la rampe, on ne va pas plus loin, on ne vous demande même pas un prix. Donc la qualité, c'est effectivement le socle. Personne n'accepte aujourd'hui qu'achetant une voiture, dans plus de 1% des achats, vous ayez des problèmes mécaniques au démarrage, à l'achat. Et donc les niveaux de qualité deviennent excessivement contraignant. Lorsque j'ai pris la présidence d'Actia en 2003, les niveaux de non-qualité admissibles étaient une mauvaise carte électronique tous les 1000 cartes produites. comme on pose en moyenne 500 composants par carte électronique, c'est-à-dire chaque fois qu'on posait 500 000 composants, on avait droit à une erreur. Aujourd'hui, le niveau qualité admissible est de 1 ppm, c'est-à-dire une carte pour 1 million de cartes fabriquées. C'est-à-dire que chaque fois que vous posez 500 millions de composants, vous avez le droit à une erreur. Et donc, atteindre ces niveaux de qualité, effectivement, quelque chose qui est relativement difficile, et c'est le socle de l'économie basée sur la connaissance aujourd'hui. Donc, vous voyez que le terme de connaissance induit aussi la connaissance sur toutes les méthodes qualitatives qui permettent effectivement d'atteindre de telles performances. Immédiatement au-dessus, vous avez l'innovation, c'est-à-dire la capacité de votre entreprise à proposer au client final, au travers de votre client intermédiaire, le cas échéant, mais au client final, une innovation qui va faire la différence, effectivement, entre votre produit ou service et les produits ou services de vos concurrents, notamment lorsqu'ils sont situés dans des pays bas. Cette innovation va toucher évidemment aussi les procédés de production, c'est-à-dire va venir s'implémenter dans l'entreprise dès le bureau d'études qui va définir la conception du produit. Bien entendu, cette économie est drivée par les coûts aujourd'hui, par les services liés aux produits que vous mettez en œuvre et éventuellement par la marque, si vous arrivez effectivement à percer dans ce domaine. Dès lors, les deux moteurs d'une économie basée sur la connaissance, vous le voyez bien apparaître ici, c'est d'une part l'innovation qui va toucher la qualité, le produit, les services liés au produit, les coûts et la marque, et puis la capacité sur cette base-là, le cas échéant, à entreprendre, soit dans le cadre d'une entreprise, c'est ce qu'on appelle les intrapreneurs, soit à l'extérieur, c'est pour ça que j'ai mis la photo de Steve Jobs ici, et vous le savez aujourd'hui, la réussite d'Apple est telle, son trésor de guerre est tel, 175 milliards de dollars, que Apple, qui se lance sur la construction automobile aujourd'hui, aurait pu acheter Volkswagen, General Motors et Toyota à la fois. Mais de la même façon qu'ils n'ont pas voulu acheter Nokia lorsqu'ils se sont lancés vers le smartphone parce qu'ils considéraient que Nokia avait une guerre de retard par rapport à ce qu'ils avaient en tête, c'est-à-dire le smartphone, et qu'ils ont mis pratiquement Nokia à genoux, ils considèrent que ça ne sert à rien, ça ne servirait à rien de dépenser leur trésor de guerre l'achat d'un constructeur automobile. L'innovation réussie dans une économie de la connaissance, qu'est-ce que c'est ? C'est être obsédé par vous, c'est-à-dire par le client final. Alors, j'ai donné l'exemple ici de l'aéronautique. L'obsession, c'est qui ? C'est le passager. C'est au fond, lorsqu'on est un jeune chercheur, un jeune ingénieur, de dire le passager, qu'est-ce qu'il attend ? Qu'est-ce qu'il veut ? Et de porter un regard aussi curieux que possible pour savoir effectivement quelles sont les tendances. C'est par exemple l'idée de Pierre Fabre, créant sa société, lui pharmacien d'officine, docteur en pharmacie, qui voyait monter sur la montagne noire des casse-treize allant chercher le week-end de la racine de petit ou en faire des décoctions, se disant pourquoi ils font ça, etc. Donc apporter un regard de curiosité, poser des questions et s'apercevoir que par rapport aux jambes lourdes, dont ma mère qui a une consommation considérable de cycle 3 souffrait, eh bien, il y avait là une opportunité qu'il fallait saisir, en quelque sorte. Voyez. Et chaque fois que j'ai rencontré M. Pierre Fabre, il avait ce regard aiguisé sur les choses, sur le client final, en disant, mais qu'est-ce que la société attend ? Qu'est-ce que le client final attend, en quelque sorte. Cette capacité d'innovation, elle ne s'apprend pas dans les écoles doctorales. Dans les écoles doctorales, j'ai dit tout à l'heure, on va se prendre des connaissances, et donc on a une culture scientifique, on a une méthode expérimentale, mais la curiosité intuelle qui fait qu'effectivement, dans une économie basée sur la connaissance, seul compte les besoins du client final, et évidemment le respect de la réglementation qui l'entoure, santé publique, environnement, etc., c'est ça en quelque sorte qu'il faut avoir en tête. Et des innovations réussies, des entreprises qui réussissent, effectivement, ce sont ces entreprises qui pensent de façon obsédante, en quelque sorte, au client final. Et puis après, alors je vous ai mis un A350, puisque l'A350-1000 a réussi son premier vol, vous le savez, c'est une merveilleuse réussite, 52 ou 53% de matériaux composites sur l'A350-1000. C'est comment on est capable de transformer le besoin perçu du client final en spécification fonctionnelle et faire en sorte que sur toute la chaîne, ensuite de façon extrêmement rigoureuse, on ne perd pas un iota de ce que le client final attend. Et c'est la méthode qui, à partir de la créativité que veut le client final, qu'est-ce que je peux imaginer pour satisfaire ses besoins dits ou non dits, traduit en spécification fonctionnelle puis technique, va permettre ensuite de découper l'objet selon une architecture et d'étudier chacun des modules de façon à pouvoir descendre la courbe en V et ensuite valider chacun des modules, chacun des composants, chacun des tronçons, etc. sur la remontée. Sachez aujourd'hui que lorsque vous développez par exemple un nouveau logiciel qui fait par exemple 1 million de pas de programme, vous allez mettre N heures pour développer, c'est-à-dire écrire les codes, et vous mettez en moyenne entre 3 et 5 fois N heures pour valider le logiciel que vous aurez ainsi développé. Donc, la remontée des courbes en V, ce qu'on appelle la validation, la rigueur scientifique nécessaire effectivement pour réussir un produit, est évidemment fondamentale. Si vous lancez sur le marché un logiciel buggé, évidemment, il n'aura pas la qualité, donc il va échouer immédiatement, quel que soit son prix. Bon, je passe rapidement là-dessus. Je voudrais dire un mot avant de conclure sur l'interdisciplinarité, puisque l'interdisciplinarité est aujourd'hui au cœur de beaucoup de débats universitaires à Toulouse. Prenez un A350. Un A350, c'est évidemment des matériaux de la mécanique. J'ai parlé de matériaux composites tout à l'heure. Ce sont des commandes de vol électroniques, donc c'est d'électronique et d'informatique. C'est un système, c'est de l'aérodynamique. Ce sont des réacteurs, c'est-à-dire c'est de l'énergétique. Bref, un A350, c'est un système interdisciplinaire. La lutte contre le cancer, j'ai dit tout à l'heure, c'est aussi une bagarre qui nécessite de la pluridisciplinarité jusqu'aux mathématiques les plus fondamentales aujourd'hui pour écrire les nouveaux codes de calcul sur le calcul intensif. Et donc, le grand challenge auquel nos universités, nos campus universitaires européens et mondiaux sont aujourd'hui confrontés, c'est d'être capable d'organiser l'interdisciplinarité. Or, aujourd'hui, depuis exactement 1969, un ministre franc-comtois qui disait qu'il n'avait pas de cheveux sur la tête, mais qu'il l'avait sur la langue, et Garfour, après ce qui s'était passé en 68, a découpé pratiquement toutes les universités françaises. Et ici, à Toulouse, nous avons actuellement 3 universités, l'université de Toulouse-Capitole, l'université Jean Jaurès, l'université Paul Sabatier, plus un institut national polytechnique qui faisait partie de la faculté des sciences, avec 3 écoles d'ingénieurs créées par Paul Sabatier, etc. Ce qui s'est passé dans les décrets de 1969 n'avait pas de cause scientifique. Tout le monde le perçoit. Or, aujourd'hui, l'interdisciplinarité nécessite, par exemple, que pour traiter un certain nombre de grands défis scientifiques ou sociétaux, nous avons besoin d'interdisciplinarité et nous avons besoin de la bâtir. Or aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'un jeune doctorant qui est sur un sujet interdisciplinaire va prendre ses contacts, et c'est comme ça qu'on arrive, par exemple, à un laboratoire d'excellence, que je ne critique pas, hein, dans le domaine du cancer, je crois qu'il s'appelle Toucan, et qui associe l'Institut universitaire du cancer de Toulouse avec les mathématiques, non pas de l'Institut de mathématiques de Toulouse, mais de Grenoble. Alors qu'on a ici la deuxième école de mathématiques après Paris. Et donc, organiser pour être efficace, effectivement, l'interdisciplinarité est quelque chose qui doit aujourd'hui se faire, à la fois dans l'intérêt de nos jeunes docteurs qui, en entreprise ou dans leur domaine scientifique, vont être confrontés à l'intersignalité, mais aussi au sein de notre université. C'est finalement l'objectif de l'initiative d'excellence qui a été lancée par le gouvernement français, qu'on appelle le programme DES, beaucoup d'entre vous ont entendu parler, qui fait suite du reste à la même initiative qui a eu lieu en Espagne et en Allemagne, puisque l'Allemagne a lancé son programme d'initiative d'excellence en 2003. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos jeunes chercheurs? Je passe rapidement là-dessus. Voilà, c'est le dernier transparent. Avec la figure que vous connaissez bien, celle de Claude Onesta. sur l'attente au fond de notre société par rapport aux jeunes docteurs. Premièrement, je l'ai dit tout à l'heure, la curiosité, et notamment la curiosité du client final. C'est extrêmement important dans une entreprise, et c'est très important sur tous les programmes de recherche qu'on peut lancer dans une entreprise, parce que dans les spécifications que vous allez dicter, si vous avez une spécification qui tombe à côté, ça a été un peu le cas de la 380, ou contre les dénégations de Boeing, j'ai terminé sur 747, on a voulu faire un quadrilatère, c'est-à-dire un avion qui certes a un rayon d'action de 15 000 km, qui certes est capable de transporter 500 passagers, mais 4 réacteurs, ça veut dire une résistance au vent importante, ça veut dire des consommations d'énergie importantes. Alors que Boeing développait son 777, le Dreamliner, et qu'on a immédiatement réagi après avec la 350. Le niveau de commande de la 350 est considérable aujourd'hui, c'est déjà une réussite, alors que la 380 ne cesse effectivement dans ce niveau de commande de décroître. Donc vous voyez, une erreur, 4 réacteurs plutôt que 2, et vous pouvez avoir un désastre plutôt qu'une réussite. Quelque sorte, donc le respect des spécifications fonctionnelles initiales est particulièrement important. De la créativité, évidemment, garder sa culture scientifique. Garder sa culture scientifique. Les jeunes docteurs aujourd'hui ont un spectre relativement large, et puis il y a ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire l'analphabétisation de retour qui fait qu'au fur et à mesure, on oublie l'histoire, le droit, les maths, la physique, la chimie, etc. Si bien que j'ai connu, je me rappelle, lorsqu'on m'a demandé de créer une école des mines ici à Albi, le recteur de l'académie à l'époque me disait, en présentant l'examen du baccalauréat, car l'épreuve de maths était un historien. Je n'aurais pas été capable de réussir mon épreuve de maths. Voilà, on est tous confrontés à ça. C'est humain, c'est normal, il faut le savoir, et par conséquent, il faut savoir entretenir sa culture scientifique. La méthode expérimentale qui reste une méthode très importante, y compris dans l'entreprise. Alors, j'ai remplacé le management par la communication et l'esprit d'équipe. C'est pour ça que je mets Claude Onesta. Claude Onesta, en hand, a gagné tous les titres, vous le savez. La Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, les Jeux Olympiques, etc. Sa capacité, avec des stars du hand, à maintenir un esprit d'équipe et à faire en sorte que ces stars se dévouent au profit de leur équipe, et non pas l'inverse, en quelque sorte. Voilà. C'est quelque chose qui est évidemment très important, que ce soit dans un laboratoire, et pire encore, plus encore dans une entreprise. Et enfin, la ténacité qui caractérise presque tous les jeunes docteurs, puisque pendant 3 ans, voire plus, un doctorat en droit, parfois, ça dure quoi ? 6 ans, 7 ans. Donc pendant de longues années, effectivement, avoir cette ténacité, et c'est aussi très important, évidemment, pour pouvoir maintenir des compétences, des connaissances, et par conséquent, exceller dans un domaine dont la société a aujourd'hui tant besoin. Voilà. Merci de votre attention. Thank you.